Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de l'équilibre et de l'équilibration aquatique avec un certain nombre d'éléments, toujours dans une problématique, dans un premier temps de connaissances théoriques et dans un deuxième temps de quelques applications. Alors dans la partie théorique, je voudrais revenir tout de suite sur les aspects terminologiques, sur les problèmes d'équilibre, d'équilibration, et dans le cadre de cette problématique de flottabilité, de flottaison, de glisse, etc. Les principales références que j'ai utilisées, historiquement, on va le dire en fonction des années, sont deux ouvrages personnels et un ouvrage collectif, mais dans ce cadre-là, je vais aussi utiliser d'autres références que je présenterai au fur et à mesure. On sait qu'un équilibre maîtrisé semble essentiel à la réalisation de la plupart des habiletés motrices. La pratique des activités physiques et sportives peuvent contribuer à son développement. L'équilibre et l'équilibration sont donc des problématiques extrêmement importantes en STAPS. Mais ce que je vais présenter ici, c'est principalement dans le milieu aquatique et donc dans le cadre de l'activité natation. Alors, même si j'aborde la problématique de l'activité natation, je vais quand même revenir sur quelques définitions ou quelques rappels sur les problématiques de l'équilibre et de l'équilibration. L'équilibre moteur, c'est une aptitude de l'homme à maintenir dans une position contrôlée, à l'aide de mouvements compensatoires, son propre corps, un autre corps ou des objets dans une position stable. On peut considérer donc qu'il y aurait trois sortes d'aptitudes, puisqu'il y aurait trois sortes d'équilibres. Un équilibre statique, faire un appui tendu renversé, par exemple. Un équilibre dynamique. Ou une aptitude à tenir un objet en équilibre, c'est dans certaines configurations particulières et des compétences particulières. Mais, par ailleurs, un équilibre peut être stable, peut être instable ou peut être indifférent. Indifférent, ça veut dire vous prenez un ballon sur une plateforme bien horizontale, vous le posez dans quelques configurations, il ne va pas bouger. Par contre, l'inconvénient, c'est que s'il y a une petite pente, eh bien, cet équilibre qui était à l'origine indifférent devient un équilibre instable. L'équilibration, on peut considérer donc le terme sion donc montre bien que de l'équilibre, on est plutôt dans la problématique statique, même si on a vu qu'il existait un équilibre dynamique. Et l'équilibration, c'est la capacité à maintenir en équilibre ou à réorganiser. Donc, il y a une différence entre une équilibration ordinaire, à la portée de tous les sujets normaux, marcher, courir, descendre les escaliers. On peut considérer que n'importe quel être humain est capable de réaliser ces modalités d'équilibration ordinaire. Mais nous, et particulièrement dans le milieu aquatique, on est dans une forme d'équilibration particulière qui s'apprend. Et qu'on peut qualifier d'équilibration de luxe avec des actes moteurs spécialisés ou et dans certaines activités professionnelles. On sait aussi que l'équilibration n'est pas que dans le milieu des activités physiques, mais aussi sportives, mais aussi professionnelles. Donc l'équilibre des sportifs sort de l'ordinaire et on peut donc le considérer comme un équilibre de luxe. Après ces quelques rappels terminologiques, je voudrais revenir sur des connaissances scientifiques sur les mécanismes de l'équilibration et en particulier quelques rappels, même si je ne vais pas aller très très loin, hein, on pourrait aller beaucoup plus loin que ce que je vais faire, sur l'appareil vestibulaire, en gros le dispositif qui est chargé de maintenir ou de restructurer l'équilibration dans ce cadre-là. L'appareil principal est l'appareil vestibulaire, même si on va le voir qu'il y a d'autres mécanismes qui sont chargés de cette modalité d'équilibre ou d'équilibration. Donc, les récepteurs non spécialisés, je l'ai dit tout à l'heure dans mes références, j'aborde de temps en temps la référence, donc que vous pourrez consulter éventuellement et compléter. Donc, on voit bien que les dispositifs de contrôle sont très multiples, puisque l'œil, par exemple, va jouer un rôle dans l'équilibre ou l'équilibration. C'est-à-dire que si on ferme les yeux, on a un équilibre qui est modifié par rapport à au contrôle visuel, mais on voit aussi qu'il y a des dispositifs de centre de contrôle, le cerveau, le noyau rouge, le cervelet, par exemple, ou le tronc cérébral, substance réticulée. La moelle épinière va jouer un rôle également dans l'organisation du contrôle de l'équilibre. Et même si ici le schéma le présente sur la cuisse, mais les différents muscles de la nuque, du cou, des membres supérieurs, inférieurs, etc., sont chargés également de la problématique de l'équilibre. On a également une particularité très importante qui a été bien relevée par Jacques Paillard dans son travail sur l'équilibre, c'est la plante des pieds, puisque le seul contact physique qu'on ait avec le sol quand on est en position debout est bien la plante du pied. Donc le rôle dans l'équilibre de la plante du pied est extrêmement important. Alors, dans ce cadre-là, si on revient très très en arrière dans la problématique sherringtonienne de la différenciation entre les propriocepteurs, les interocepteurs et les extérocepteurs, eh bien, dans les mécanismes d'équilibration, on va avoir les trois qui vont intervenir, puisque certains mécanismes vont donner des informations, donc des mécanismes dont le système de contrôle est à l'intérieur du corps et va donner des informations sur l'intérieur du corps, des dispositifs qui vont être en contact ou et à distance, en particulier la vision est une modalité extéroceptive à distance, mais le contact du pied avec le sol, par exemple, dans le cadre de l'équilibre statique, est un contact direct, ce sont des extérocepteurs, et on a évidemment énormément de propriocepteurs, et le système vestibulaire fait partie de ces mécanismes dont, par exemple, les canaux semi-circulaires sont à l'intérieur de l'oreille interne et pour autant donnent des informations sur la position ou le mouvement du corps dans l'espace. Justement, dans cette problématique de la proprioception, on a des informations de récepteurs tactiles, des récepteurs neuromusculaires, tendineux ou des articulations. Et le labyrinthe, donc le concept de vestibule labyrinthe est un petit peu différent sur la problématique que je vais défendre maintenant sur cette problématique donc de la proprioception. Alors, première des choses qu'on peut voir, c'est qu'on a une oreille externe, une oreille moyenne, une oreille interne, et là, je suis directement dans l'oreille interne pour aborder les canaux semi-circulaires qui sont chargés de la dynamique de l'équilibration, là où le saccule et l'utricule, par exemple, vont donner des informations statiques. Alors, une particularité tout de suite, c'est que la position normale de la tête lorsque les récepteurs labyrinthiques sont en position horizontale, c'est un regard à peu près dirigé vers 5 mètres en avant, c'est-à-dire c'est la position normale de la tête, la position relevée étant une position sociale. La preuve, c'est que quand on regarde la position naturelle de la tête, donc chez le nouveau-né humain ou chez le nouveau-né gorille, ils ont la même position de tête. Par contre, chez l'adulte, eh bien, on a une différenciation. Cette différenciation est d'autant plus importante qu'on est bipède, quadrupède ou éventuellement dans d'autres problématiques sur lesquelles je reviendrai. Donc, sur cette logique des récepteurs donc vestibulaires, eh bien, on a, comme je l'ai présenté tout à l'heure, une oreille externe avec donc évidemment les modalités de l'audition, un conduit et une oreille moyenne et l'oreille interne. Dans l'oreille interne, on a deux dispositifs, une cochlée qui est chargée des mécanismes de l'audition et qui vont être en lien avec le nerf auditif, et on a le système vestibulaire donc qui va être dans le même endroit de l'oreille interne, mais évidemment chargé de l'équilibration sur lequel je reviens immédiatement. Donc ce dispositif, si on oublie rapidement la cochlée et le système auditif, on a le nerf facial à côté, mais on a surtout le nerf vestibulaire qui est chargé donc de récupérer les informations statiques et dynamiques compris dans le système vestibulaire chargé de l'équilibration. On a une utricule qui va étudier la problématique de l'horizontalité, un saccule qui est chargé de la verticalité et des canaux semi-circulaires dans les trois plans de l'espace chargés de des modifications dynamiques. Alors la position de la tête, eh bien, on peut considérer que on a une position de tête normale dans un certain nombre de mécanismes, par exemple chez le quadrupède ou chez l'enfant très jeune, dans lequel la position de la tête est en position normale. Mais cette position normale, on peut la voir toujours, ça veut dire sans sollicitation des mécanismes vestibulaires, alors que le cou est en extension ou en flexion. Et lorsque on est dans des modalités, par exemple, de modification, eh bien, la tête peut être en extension, en flexion. Ce qui veut dire donc clairement que les muscles du cou vont jouer un rôle important dans la rééquilibration, mais les systèmes labyrinthiques sont différenciés. En d'autres termes, pour avoir mené une étude sur les sollicitations du rachis de l'handicapé sur un fauteuil roulant, eh bien, on s'aperçoit que le fait de modifier tout simplement la bascule du fauteuil roulant en montant une marche ou en la descendant, eh bien, on n'avait pas de mécanisme tout simplement de récupération, et donc les sollicitations au niveau du cou étaient très fortes et donc amenaient un certain nombre de traumatismes. Alors pour revenir maintenant sur les systèmes statiques, le système maculaire est constitué donc tout simplement d'un dispositif de petits otolithes, ce sont des petits cailloux qui sont liés à la pesanteur, qui sont positionnés sur une structure gélatineuse. Cette structure gélatineuse est donc extrêmement sensible. À l'intérieur de cette structure gélatineuse, on a des cils vibratiles qui vont conduire l'information vers des mécanismes nerveux et ensuite transmettre ces informations au système nerveux. Et donc, de sorte que quand on est dans une problématique tout simplement de modification du mouvement, eh bien, on va être en système statique qui va, de la même manière qu'un coquillage donc qui va ouvrir et qui va réceptionner des petits grains de sable, eh bien ces grains de sable, il va y avoir des détecteurs qui vont savoir si ces grains de sable se déplacent et donc quelle est la position tout simplement de ce coquillage ou de cette animal marin qui peut tout simplement détecter la verticale ou l'horizontale grâce à ces cils vibratiles et des grains de sable à l'intérieur de l'eau de mer. Eh bien le dispositif à l'intérieur de l'oreille interne est comparable. Alors, le système dynamique ou système ampullaire, toujours à l'intérieur du rocher de l'os temporal, est composé des canaux semi-circulaires. Cette fois-ci, on est sur des systèmes dynamiques. Pourquoi on est sur des systèmes dynamiques ? C'est que chaque canal contient des ampoules. Ces ampoules sont remplies de liquide l'endolymphe et ce liquide se déplace et en se déplaçant, va modifier la position des cils vibratiles un peu comparable à ce qu'on a vu précédemment. Et donc, la cupule va se déplacer à cause du déplacement du liquide et la crête va détecter un mouvement qu'elle va transmettre au dispositif de l'information donc nerveuse. Ici, on est dans la réalité, c'est-à-dire qu'on voit tout simplement la cupule et l'ampoule dans lequel va circuler le liquide endolymphatique. Et cet endolymphe va donc se déplacer et donc solliciter des mécanismes. Et cette fois-ci, on est vraiment sur des mécanismes dynamiques. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est tout simple. Lorsque le liquide se déplace, il va déplacer la structure gélatineuse qui, en se déplaçant, va solliciter et donner des informations, de sorte que quand l'endolymphe va circuler, quand on va bouger la tête, eh bien, on va avoir ce liquide qui va se déplacer, qui va modifier le placement de cette cupule gélatineuse. Et donc, en déplaçant, ça va donner un mouvement. De sorte que le système ampulaire, ampulaire lié aux ampoules, est un système dynamique. Dès qu'il y a un mouvement, il y a une modification. C'est comme dans un véhicule au démarrage ou au freinage, eh bien, on va avoir pendant le déroulement éventuellement une absence d'information, mais au démarrage et à l'arrivée, il va y avoir une information extrêmement importante. De sorte que la complémentarité entre les dispositifs statiques et les dispositifs dynamiques sont extrêmement importants, et j'y reviendrai donc évidemment dans la particularité de l'activité natation sur le positionnement de la tête et les sollicitations du segment céphalique, la tête au niveau biomécanique, par rapport à cette logique-là. Donc il faut bien retenir que lorsqu'on est immobile, on n'a aucune information, enfin très peu d'informations, en gros tic, 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 tout va bien, tout va bien, tout va bien, à l'immobilité du système statique et du système dynamique. Dès qu'il y a un mouvement de la tête, eh bien, on va avoir une accélération qui va être détectée et par le mécanisme dynamique et par le dispositif statique et dynamique. Dès qu'il va y avoir une stabilisation, eh bien, évidemment, le système statique, lui, ne détecte plus rien, mais le freinage amène une modification du système dynamique, et ainsi de suite. Dans cette problématique, on va avoir un certain nombre de troubles de l'équilibration. Ce trouble de l'équilibration, une grenouille normale, par exemple, eh bien, elle va avoir une modification du placement, tout simplement, de son système détecteur de la position de tête liée à l'équilibre. Mais lorsqu'il y a des troubles, eh bien, les modifications, tout simplement, de la position de la tête sont évidemment perturbées. C'est ce que je vais vous présenter dans un très très ancien travail, c'est pour ça que c'est monté sous des formes diapositives. Donc il y a toute une étude sur justement les noyaux vestibulaires et sur les sollicitations vestibulaires chez la souris. Et la souris normale, quand elle se déplace, eh bien elle se déplace tout à fait normalement, alors que chez la souris qui a été labyrinthectomisée, eh bien, on voit que son déplacement n'est absolument pas cohérent. Elle se déplace en rotation et dans un sens ou dans l'autre, selon le cas. Et on voit bien qu'il y a une perturbation extrêmement importante. Alors, pourquoi je vous présente ça? C'est que ces souris, on les a fait nager et on a regardé les effets. Et je pense que ça a quelques répercussions sur tout simplement le comportement humain qu'on peut évidemment imaginer. Si on attrape une souris par la queue, eh bien, normalement, la souris cherche à se redresser. Évidemment, comme il n'y a pas de point d'appui, elle n'arrive pas à le faire, mais elle cherche à se redresser en relevant la tête. Donc, l'extension est une bonne modalité de redressement. Elle n'y arrive pas, et puis de nouveau, elle réessaye, etc. Donc, ça, c'est la souris normale. Chez la souris qui a été unie, labyrinthectomisé, c'est-à-dire dans lequel un des deux systèmes vestibulaires a été détruit, eh bien, on voit qu'en l'attrapant par la queue, elle tourne sur elle-même. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle n'a qu'un dispositif qui est actif et l'autre qui est modifié. Et dans ce cas-là, elle est extrêmement perturbée. Le paradoxe, c'est qu'une souris qui est bilabyrinthectomisée, c'est-à-dire qui n'a plus de labyrinthe ni d'un côté ni de l'autre, eh bien, elle a... Il semble qu'elle ait moins de perturbations que celle qui n'a qu'un seul labyrinthe. Pour autant, on voit que son adaptation est absolument anormale, puisque au lieu de se rétablir dans un mécanisme d'extension, elle se rétablit dans un mécanisme de flexion, ce qui est évidemment absolument pas adapté. On est bien dans des troubles de l'équilibration. Alors la souris normale, eh bien, elle a une position corporelle, puisque c'est un quadrupède, donc tout à fait normal quand elle se déplace. Si on la met dans l'eau, eh bien, elle va tout simplement Cette souris a été mise dans l'eau pour la première fois de sa vie, puisque c'est des souris d'élevage qui sont élevées en laboratoire. Eh bien, cette souris, donc, elle relève la tête, tout simplement pour maintenir sa fonction visuelle et sa fonction respiratoire hors de l'eau. Elle se déplace avec ses membres donc inférieurs, enfin inférieurs plus exactement arrière. Vous voyez qu'ici, elle bloque les pattes avant, même si elle est capable de les utiliser. Et donc, les quadrupèdes, c'est vrai chez le cheval, le chat, le chien ou la souris, par exemple, eh bien, n'ont pas besoin de faire un apprentissage de l'activité locomotrice dans le milieu aquatique parce que leur quadrupédie les amène à simplement redresser la tête, se réorganiser, réaliser quelques mouvements similaires à un mouvement de locomotion pour pouvoir tout simplement créer un déplacement. Et donc, on voit bien que ces souris n'ont pas de difficulté à devenir à se déplacer dans le milieu aquatique. Pour information, un embryon, enfin quand on appelle un embryon, dans le laboratoire on appelle ça comme ça, c'est-à-dire une souris qui vient de naître, eh bien si on la met dans l'eau, elle coule et elle n'est pas capable de réaliser. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit problème de maturation chez l'animal naissant, mais à l'âge adulte, il n'y a aucun problème. Alors, la souris qui a été labyrinthectomisée, eh bien n'est plus capable tout simplement de se maintenir dans l'espace aquatique parce que ça nécessite une adaptation du système donc labyrinthique. Et si on regarde le comportement d'une souris qui a été labyrinthectomisée, eh bien on voit qu'elle se déplace d'une manière anormale et de ce fait-là, elle n'est pas capable tout simplement de créer le déplacement normal dans le milieu aquatique. Alors, pour revenir maintenant chez l'humain, je ne crois pas que je vais retourner chez l'animal, on va rester maintenant chez l'humain. Eh bien, tout à l'heure, j'ai parlé de compétences d'équilibre. On reviendra équilibre, équilibration alternativement. Eh bien, dans la problématique de l'équilibre, il y a deux compétences. Une compétence qui est une aptitude, c'est-à-dire des choses normales, chez un être normal qui n'a pas de détérioration. Et dans les tests europhites, eh bien, on a le 19e facteur qui est l'équilibre corporel global qui est mesuré donc tout simplement par un test où on demande au sujet de fléchir une jambe, de se mettre en appui sur donc une petite baguette là et de fermer les yeux et on regarde combien de temps elle peut rester sans tomber et on s'aperçoit que cette aptitude est différente chez les gens normaux. Alors je voudrais revenir maintenant sur les problématiques du segment céphalique. Le segment céphalique, enfin la tête comprend évidemment des organes extrêmement importants et des fonctions extrêmement importantes, mais c'est aussi un segment corporel. Ça veut dire que quand je modifie la position de la tête indépendamment du reste, eh bien ça modifie mon équilibre. Pour autant, le redressement, par exemple, qui est réflexe chez le chat, qui est bien connu, fait partie tout simplement des mécanismes réflexes de redressement, et on voit que ce segment est absolument actif dans la problématique du redressement. Et ça n'est pas, même si on voit que la fonction visuelle ou le redressement de la tête va jouer un rôle, eh bien c'est la tête qui est l'organe principal de récupération de l'équilibre. Et on voit que la tête a un temps d'avance dans l'organisation et la réorganisation de ce déséquilibre qui est provoqué évidemment artificiellement. Alors maintenant, je reviens sur la problématique tout simplement des connaissances liées à l'activité natation chez l'être humain et en abordant la logique de la flottaison. Alors la flottaison du nageur est liée à un certain nombre de forces, des forces qui sont des forces de pesanteur et des forces qui sont des forces de poussée d'Archimède. On va aborder la problématique de la flottabilité et des niveaux de flottaison. Alors, pour pouvoir illustrer un peu cette problématique, ben, j'ai posé un certain nombre de questions, et je vais repris des travaux antérieurs, sur la problématique de, par exemple, on met deux boules ou de balles, balles de tennis, boules de pétanque, qui ont à peu près le même volume, on les met dans l'eau, et on s'aperçoit qu'il y en a une qui va remonter, l'autre qui va descendre. Pourquoi ? Eh bien, parce que, justement, les forces qui s'adressent à ces objets, donc, sont les mêmes, mais pas dans les mêmes proportions. Si on admet ce que j'ai mesuré, que le diamètre est à peu près similaire de l'ordre de 7 cm, que ça représente 180 cm3, ça veut dire que la poussée d'Archimède, qui est proportionnelle au volume et non pas à la masse, est de 180 grammes force. Eh bien, si on prend la boule de pétanque qui pèse 700 grammes, et si on prend la balle de tennis qui pèse 58 grammes, ça veut dire que quand la boule de pétanque qui reçoit une force dans un sens de 700 grammes et dans l'autre sens de 180 grammes, eh bien évidemment, c'est les 700 qui gagnent sur les 180, donc elle coule. Alors que la balle de tennis qui reçoit une force de 180 grammes dans un sens, mais qui ne pèse que 58 grammes, eh bien c'est les 180 qui gagnent, mais elle ne va pas sortir de l'eau puisque elle va s'équilibrer jusqu'à avoir une force équivalente dans la problématique tout simplement de ces 58 grammes versus 180 grammes. Eh bien pourquoi ? Parce que on a deux forces en présence, et on va voir que c'est le cas le plus simple, une force de pesanteur qui s'applique au centre de gravité, une force de poussée d'Archimède, mais là par contre qui s'applique au centre du volume et non pas au centre de gravité. Donc c'est une différence importante. Lorsque le corps est un corps homogène, une boule ou un carré, un cube, eh bien les deux forces vont s'appliquer au même point d'application, puisque le centre de gravité et le centre de poussée sont confondus. Lorsque, même dans un corps homogène, eh bien la force de pesanteur va être inférieure à la force de poussée d'Archimède, eh bien, ça va flotter. Et lorsque on est dans la configuration inverse, eh bien, évidemment, ça va couler. Une question qu'on peut se poser, est-ce que les élèves flottent de la même manière ? La réponse est non. Et on voit chez des nageurs confirmés que même chez des nageurs experts, et je vais le dire d'une manière juste après, eh bien, on voit que la flottabilité de nageurs experts, ces trois-là sont internationaux, ont été internationaux il y a très longtemps d'ailleurs, c'est des vieilles photos, eh bien, on s'aperçoit que ces nageurs ne sont pas soumis dans les mêmes conditions. Ça leur pose un problème de statique, ça veut dire que c'est un inconvénient de pas bien flotter pour apprendre à nager, mais c'est un avantage extrêmement important dans l'activité aquatique d'aujourd'hui, en particulier en brasse ou en papillon, où la profondeur des appuis est plus importante que la flottabilité, ce qui n'est pas vrai en dos, puisque les épaules et la tête doivent être hors de l'eau. Alors, si on regarde très attentivement les problématiques de ce qui coule ou ce qui flotte, eh bien, on va voir qu'un bouchon de liège ou un tronc de chêne vont flotter, à la différence tout simplement du bois d'ébène qui va couler, ou bien si vous prenez un morceau de viande, un jambon par exemple, eh bien il va couler. Si vous prenez de la glace, eh bien ça va flotter, etc. etc. Et donc, eh bien, l'idée c'est que l'homme et la femme flottent dans des proportions très faibles, 0,98 ou 0,97, la femme flotte légèrement mieux que l'homme d'une manière générale, et évidemment il y a énormément de cas particuliers, mais très très proche du niveau de flottabilité. Alors ça veut dire donc clairement que si on flotte très peu, eh bien la majeure partie, c'est moins bien que l'iceberg, la majeure partie du corps humain va être évidemment sous l'eau, et une partie va être hors de l'eau. Si on baisse la tête, eh bien ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque c'est les cheveux qui seront hors de l'eau, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, alors qu'on verra que si on lève les mains, eh bien là c'est encore pire, puisque la tête est encore plus enfoncée lorsque les mains sont hors de l'eau, en statique, attention, en dynamique, c'est très très différent, mais pour l'instant, nous sommes en statique, ça veut dire qu'il y a une partie du corps qui peut être comparée d'ailleurs, qui est hors de l'eau en fonction de la flottabilité. Ça veut dire, clairement, qu'un individu qui flotte légèrement, lorsqu'il va modifier sa position, eh bien, pendant un temps, le seul fait de remonter les bras va faire qu'il y a une petite incidence dynamique qui va le faire couler. Mais s'il est capable d'attendre un petit peu, ou même un petit peu plus, eh bien, il va retrouver en statique le même volume hors de l'eau qu'il avait quand il avait un bout de tête hors de l'eau. Donc tout ça pour dire qu'il faut attendre. Parce que lorsque, si je reviens un tout petit peu en arrière, lorsque je modifie une position, eh bien, ça a une incidence, évidemment, sur la position hors de l'eau et la position dans l'eau. Tout de suite, une application, même si ce n'est pas le moment, j'y reviendrai tout à l'heure, pas sur cette question-là, c'est pour ça que je l'aborde maintenant. Eh bien, dans cette application-là, eh bien, on va se rendre compte que, par exemple, un retour de bras qui va passer par-dessus, eh bien, va avoir des effets sur la modification de l'équilibration. Manque de peau, eh bien, au lieu d'attendre que la main re-rentre dans l'eau pour se rééquilibrer, la plupart du temps, on va escamoter un certain nombre de phases, justement, pour éviter de couler, parce qu'on n'est pas capable d'attendre en statique. Alors, comment on va mesurer la flottabilité? Ça se mesure, il y a au moins 3 ou 4 conditions de mesure. La première condition, elle est très simple, c'est de mesurer, de calculer le niveau. Là, on est au niveau du menton, là, on est au niveau des yeux, là, on est au niveau de rien du tout. Donc, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, en gros, quel est le volume qui est hors de l'eau, soit en position tête relevée, soit en position main relevée. Et là, c'est pareil, on peut mesurer en statique. Il faut attendre qu'il y ait une forme d'équilibre, donc il faut attendre un petit peu quand même, parce que ça bouge, et jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre, et on regarde quel est le volume hors de l'eau. Première mesure, très simple. La deuxième, eh bien, on va quantifier tout simplement le niveau au niveau des cheveux, sous les cheveux. Une fois qu'on coule, on coule. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller mesurer la profondeur, puisque si on coule, on coule. Mais après, on peut regarder le front, le milieu du front, les yeux, des fois les sourcils, la base du nez, la bouche, le menton, et puis voilà. Pour avoir mesuré énormément de nageurs, j'en ai connu qu'un seul qui avait quasiment les épaules hors de l'eau. C'est extrêmement rare que de voir cette logique-là de flottabilité. La deuxième mesure qu'on va utiliser, cette fois-ci j'utilise comme référence quelque chose d'assez récent, eh bien, c'est de mettre des poids sur le dos du nageur en inspiration forcée dans tous les cas, parce qu'on verra après, la consigne respiratoire est toujours en inspiration forcée. Eh bien, dans ce cas-là, on va mesurer en mettant des poids et on va calculer quelle est la masse qu'il faut poser sur le dos du nageur pour le faire couler. Et donc, c'est une manière d'évaluer la flottabilité. On a, nous, amélioré ce mécanisme avec un dispositif, tout simplement, où on va mesurer quelle est la force déployée pour, tout simplement, ici, le nageur est attaché avec un fil. Ce fil, donc, est fixé au fond du bassin. Et en mesurant ici quelle est la force pour le faire descendre jusqu'au niveau de l'équilibre, eh bien, on va mesurer cette force. C'est beaucoup plus rapide que de poser des poids sur le dos. Et donc, c'est une manière d'évaluer tout simplement la flottabilité. Évidemment, on met ces mesures en parallèle avec des mesures anthropométriques ou des mesures de capacité respiratoire, parce qu'évidemment, selon la capacité respiratoire et l'apnée inspiratoire, eh bien, tout le monde n'a pas les mêmes compétences et donc tout le monde n'a pas la possibilité de remplir ses poumons dans les mêmes conditions et donc d'avoir la même flottabilité. Quatrième question, quand on souffle, est-ce qu'on peut encore flotter? La réponse est évidemment non, puisque dès qu'on souffle, eh bien, on va couler. Pourquoi on coule? Eh bien, parce que pour être maintenu à la surface de l'eau, ou améliorer donc au-dessus, eh bien, il faut avoir la capacité respiratoire maximale, c'est-à-dire remplir une apnée inspiratoire. Or, cette apnée, si eh bien, elle est détériorée, si on souffle, eh bien, on va voir que le corps va couler. Et si le corps coule, c'est bien que la flottabilité est toujours négative dans une apnée expiratoire, ce qui aura, on verra tout à l'heure, des incidences, par exemple, sur la coulée ventrale. Alors, si on revient maintenant sur l'équilibre du nageur, eh bien, l'équilibre du nageur, on dépasse maintenant le niveau de flottabilité. C'est le problème de l'équilibre, du couple de redressement, de l'importance de la tête dans l'équilibre aquatique ou et des autres facteurs de l'équilibre aquatique. Alors, l'équilibre de nage, eh bien, évidemment, pour pouvoir se déplacer d'une manière horizontale, puisque le but du jeu, c'est de se déplacer dans l'espace, eh bien, sauf, évidemment, si on fait de la natation synchronisée ou d'autres activités humaines, eh bien, l'équilibre est horizontal. Donc, ça veut dire qu'il va falloir positionner les segments du corps en équilibre. Pour l'instant, on est en équilibre statique. Et en équilibre statique, eh bien, on s'aperçoit qu'un nageur positionné en équilibre statique horizontal se redresse. Pourquoi il se redresse? Eh bien, parce que il est soumis à des forces qui vont progressivement faire en sorte qu'il va se redresser. Pourquoi? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, lors d'un volume homogène, par exemple un cube ou une balle, eh bien, les deux forces d'application sont au centre du volume. Par contre, dans un corps hétérogène, par exemple ici, deux cubes, un qui est très lourd et l'autre qui est très léger, qui sont collés l'un contre l'autre, à la rigueur, si on collait la balle de tennis et la boule de pétanque l'une à côté de l'autre, eh bien, on s'apercevrait qu'il y a un décalage entre le centre du volume, qui lui est au centre exact de l'ensemble du volume qui est déplacé, et donc la poussée d'Archimède s'applique à ce centre volumique, alors que la pesanteur s'applique au centre de gravité, et le centre de gravité est décalé dans la partie la plus dense. Ce qui fait qu'on a un couple de rotation, un couple de redressement, qui fait qu'un corps hétérogène positionné en équilibre horizontal va progressivement se déplacer jusqu'à un équilibre vertical à cause de ce couple de redressement, ce couple de rotation. Et si on regarde chez l'être humain, eh bien, dans le cas précédent, on a vu que le nageur avait fixé les bras en avant, mais si on laisse faire, eh bien, les bras vont se déplacer dans des proportions moindres parce que le volume est moins important. Et les jambes, évidemment, vont se déplacer puisque c'est une partie extrêmement dense pour atteindre ce déplacement de l'ensemble du corps pour se retrouver à la verticale. Il faut savoir que là aussi, pour avoir mesuré extrêmement souvent ce couple de rotation, eh bien, on a quelques personnes qui ont un couple de rotation extrêmement faible. Ça dépend, bien sûr, de la masse corporelle. Un handicapé moteur qui a une masse des membres inférieurs très faible, ou est un nageur qui va utiliser ses segments inférieurs tout à fait différemment d'un rugbyman ou est d'un coureur de sprint, eh bien, on va s'apercevoir que les masses volumiques vont être différenciées et donc les points d'application vont être plus ou moins décalés en fonction du différentiel des masses correspondantes. Alors, comment on peut mesurer, parce que ça aussi, ça se mesure, comment on peut mesurer ce couple de rotation? Eh bien, la première mesure, et c'est la plus simple, c'est en position statique, toujours pareil, en mécanisme tout simplement d'apnée inspiratoire, et on le fait plutôt sur le dos, pour des raisons tout simplement de maintien, ça veut dire qu'on peut se préparer à l'avance. On inspire, on attend l'équilibre, on a sans doute une aide, on le verra juste après, et on chronomètre combien de temps on a pour passer de l'équilibre horizontal à l'équilibre vertical. Concrètement, voilà par exemple une nageuse dans laquelle on va tenir les pieds pour qu'elle soit dans une position. Et au moment où on lâche les pieds, on va déclencher le chronomètre pour voir comment et dans combien de temps. Là, elle n'est pas encore tout à fait à la verticale. Eh bien, on va s'apercevoir que certaines nageuses, je dis bien des nageuses, j'en ai jamais vu chez les nageurs, eh bien, vous les mettez dans cette position-là, vous revenez un quart d'heure après, sont toujours dans cette position-là. Ça veut dire que les deux points d'application sont au même endroit. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les maintient en position dorsale. Donc, c'est rare, mais il arrive que certains nageurs ont une position horizontale naturelle, puisque les deux points d'application sont au même endroit. Ils sont extrêmement favorisés sur l'équilibre statique et favorisés, évidemment, sur le fait que les jambes ne s'enfonçant pas, eh bien, ils ont moins de force à déployer, tout simplement, pour se déplacer horizontalement. Alors, je souhaiterais aborder maintenant la problématique, justement, du segment céphalique, c'est-à-dire la tête en tant que masse volumique, et donc sur le plan mécanique et non pas sur le plan de ce que la tête renferme comme mécanisme, tout simplement, de prise d'information. Eh bien, dans l'équilibre ou le déséquilibre du nageur. Le seul fait, tout simplement, que de redresser la tête ou et de remettre la tête dans l'eau, eh bien, va modifier l'équilibre. Pour une raison extrêmement importante, c'est que plus je vais redresser la tête et plus, premièrement, ma tête ne sera plus soumise à la poussée d'Archimède puisqu'elle n'est plus dans l'eau. Et deuxièmement, je vais créer tout simplement une extension. Et cette extension va du coup déplacer d'une manière encore plus marquée pour atteindre la verticalité. A l'inverse, si je remets la tête dans l'eau, je remets volontairement, activement, eh bien, je peux me redresser pour être à l'équilibre horizontal. Donc, que ce soit dans un sens du redressement ou dans le sens de la détérioration de l'équilibre, la tête va jouer un rôle extrêmement important. On le voit ici, eh bien, la tête qui est dans une position, évidemment, qui n'est pas naturelle, hein, ça ne dure pas très longtemps, parce que sinon, eh bien, cette tête-là, dès que je vais la redresser, eh bien, je vais amplifier le mécanisme du couple de redressement. Ça veut dire que non seulement le couple de redressement va être actif, mais encore plus important si la tête est redressée. Alors, on a d'autres facteurs de l'équilibre aquatique. Par exemple, si les mains sont en arrière ou si les mains sont en avant, eh bien, l'équilibre peut être considéré comme similaire, sauf que si les mains sont en arrière, ça déplace d'autant plus le centre de gravité vers l'arrière que si les mains sont en avant. En d'autres termes, on est plus en équilibre horizontal, plus favorable avec les mains en avant qu'avec les mains en arrière, en statique, ce qui va amener un certain nombre de conséquences dans la nage, en particulier dans la nage papillon. Le problème de la respiration est permise, la respiration est permise grâce, évidemment, à la position dorsale, et donc le fait que les voies respiratoires sont émergées permet tout simplement un maintien de l'équilibre horizontal d'une manière plus marquée. Et si en plus on écarte légèrement les bras pour maintenir cet équilibre, eh bien on améliore cet équilibre horizontal. Alors pour atteindre ces mécanismes d'équilibre, eh bien, on sait que passer de la position verticale à la position horizontale, c'est l'inverse évidemment que du couple de redressement, d'une manière active, va améliorer tout simplement l'équilibre statique et dynamique du nageur, c'est-à-dire ce qu'on va rechercher, à savoir l'horizontalité du corps. Donc, le fait tout simplement de créer par une poussée au mur ou par une poussée au sol un équilibre horizontal va être tout simplement un des moyens d'horizontalité le corps. On en a d'autres, évidemment, comme par exemple le fait de tracter en petit bassin, que un élève va tracter un autre élève en lui demandant si possible de mettre la tête dans l'eau, mais même dans le cas inverse, eh bien on a une horizontalité qui est provoquée tout simplement par une force qui est déployée vers l'avant. Cette force déployée vers l'avant, elle peut être aussi marquée par la problématique tout simplement d'un élève qui va nager l'autre élève va lui attraper les pieds, et donc on va bien voir que plus le déplacement avant est important, et plus l'horizontalité va être marquée. Alors on peut effectivement compenser soit par du rééquilibrage, soit tout simplement par une propulsion réalisée. Ça veut dire très clairement que si c'est vrai pour deux nageurs, c'est vrai pour les membres supérieurs, c'est-à-dire que la propulsion des membres supérieurs a tendance à améliorer l'équilibration et l'équilibre horizontal des membres inférieurs. Alors, pour travailler en situation pédagogique, eh bien, par exemple, on va considérer que le fait que des élèves ont poussé un nageur, et plus la poussée va être réalisée dans de bonnes conditions, eh bien, plus la distance va être importante, à la condition de maintenir tout simplement l'équilibre horizontal et cette problématique tout simplement de l'horizontalité, mais on va le voir, comme dans la coulée ventrale, la tonicité du corps, etc. etc. Alors ça m'amène à revenir sur des vieilles problématiques, c'est-à-dire que quand vous avez des parents qui vont dire ben, « mon enfant a marché très tôt, pourquoi ?» Ben, parce que le papa a poussé d'un côté, alors là, celui-là il est assez grand, hein, mais c'est pas grave, c'est l'illustration qui compte. Le papa a poussé le gamin, il a fait trois pas parce qu'il a été déséquilibré, là, la maman l'a récupéré d'un autre côté, eh bien, donc il a marché. Non, non. Pourquoi ? Ben parce que si, dans ce cas-là, il est parti d'un équilibre, d'un déséquilibre, et il est arrivé à un déséquilibre en passant par une phase de déséquilibre, à aucun moment il a été en équilibre donc autonome, et donc on ne peut pas considérer qu'il est capable et qu'il sait marcher. Eh bien, c'est la même chose. Dans le milieu aquatique, savoir nager, ça n'est pas quitter le mur en déséquilibre, maintenir ce déséquilibre et arriver à une autre logique en déséquilibre, puisqu'on est dans la même configuration que celle que je viens de présenter préalablement, on est constamment en déséquilibre. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que savoir marcher, c'est être capable, à partir d'un équilibre statique, de créer soi-même et d'une manière autonome un déplacement plus ou moins important, c'est plus ou moins bien marché, etc., etc., jusqu'à obtenir évidemment des compétences autres, jusqu'à un équilibre statique autonome. Eh bien, c'est ça qu'on pourrait considérer comme la définition du savoir marcher. Eh bien, de la même manière, le savoir nager, c'est être capable, à partir d'un équilibre statique, de créer des conditions de déplacement, quelles qu'elles soient, par les bras, par les jambes ou autres, jusqu'à obtenir de nouveau un équilibre statique. Et là, on peut considérer qu'on sait nager. Et savoir nager, ça ne veut pas dire, évidemment, avoir des compétences extrêmement élevées, mais c'est à minima un savoir nager minimal. Dans le test qu'on avait proposé, donc les quatre co-auteurs, le test Pechomaro, qui est connu des enseignants, enfin des anciens enseignants, je ne sais pas encore, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a des moments de statique, des moments de dynamique, avec des équilibres qui sont des équilibres dynamiques, des équilibres statiques verticaux, des équilibres statiques donc dorsaux, etc., etc. Et donc, c'est cette multiplicité des compétences qui amène la capacité donc, du savoir nager validée par le test Pechomaro. Alors la coulée, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, on peut la mesurer. Comment on va la mesurer ? Eh bien, on va la mesurer en fonction de capacités. Ces capacités, c'est des capacités poussées au mur, des capacités de tonicité corporelle, de maintenir un équilibre horizontal et de maintenir une apnée. Pourquoi ? Parce que la coulée ventrale est réalisée en apnée, inspiratoire, de la même manière que les tests de flottabilité qu'on a vus tout à l'heure. Alors comment on va la mesurer, hein, c'est illustré assez bien dans cet ouvrage. Eh bien, tout simplement en positionnant donc un décamètre au bord du bassin. Après, on a des systèmes plus sophistiqués, mais ça, c'est le minimum. Et en mesurant, eh bien, la glisse correspond à la capacité de prolonger sans mouvement une translation créée par une action propulsive en immersion totale ou partielle, L'action propulsive, c'est une action réalisée par exemple par une poussée au mur, mais ça peut être réalisé autrement. Donc ça, c'est la définition de la glisse. Elle dépend de l'alignement segmentaire. Plus je suis à l'oblique et moins je vais loin. De la forme générale du corps. Si j'écarte les bras, j'irai moins loin. De la densité, si je flotte bien, je vais plus loin. Du mètre couple, c'est-à-dire justement du facteur de décalage qu'il y a dans ce couple de rotation. Des reliefs anatomiques, évidemment, si je suis, si j'ai une morphologie différente, eh bien, ma glisse sera différente. De la qualité de l'épiderme. Ou des caractéristiques du revêtement, dans le cas d'une combinaison. Mais faites une coulée ventrale avec un pull et vous allez vous rendre compte que ça va aller quand même nettement moins loin que si vous êtes en maillot de bain et à plus forte raison avec une combinaison, même si aujourd'hui elles sont plus limitées. Et évidemment, de la viscosité du milieu. Je n'ai jamais essayé de faire une coulée dans l'huile, mais on peut imaginer que dans... on sait que dans l'eau salée, dans l'eau douce... dans l'eau en mouvement ou dans l'eau en statique, évidemment, la coulée ou la glisse ne sera pas la même. Alors comment on va la mesurer? Eh bien pareil, on va, ce que j'ai dit tout à l'heure, mesurer. Donc premier cas, c'est de mesurer aux mains. Moi je sais que je le mesure à la tête et on va le voir juste après. Dans les conditions, soit, et d'ailleurs ce qu'on a fait dans des tests, à l'époque des combinaisons complètes, eh bien, on a montré que la glisse était bien améliorée grâce à la combinaison compressive. Par contre, justement, la flottabilité était détériorée. Pourquoi elle est détériorée? Eh bien, parce que quand on compresse, grâce à une combinaison ou à cause d'une combinaison, on compresse le corps, on réduit son volume. Si on réduit son volume, on réduit la poussée d'Archimède. Ça veut dire qu'on coule plus avec une combinaison compressive, je ne parle pas des combinaisons des triathlètes, je parle des combinaisons des nageurs de l'époque ancienne, eh bien la compression détériore la flottabilité, par contre améliore dans des conditions extrêmement importantes et plus importantes la glisse. Alors là, on a une vidéo de la mesure de la glisse, puisque cette glisse, elle peut être mesurée. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une action propulsive. Eh bien, cette action propulsive, ça peut être une poussée au mur, ça peut être des individus qui poussent quelqu'un, mais ça peut être aussi un plongeon de départ. Et dans le cadre de la problématique de l'optimisation du plongeon de départ d'un nageur international, Julien Sicot, pour ne pas le citer, on va travailler la glisse simplement à partir d'un plongeon de départ. Vidéo. Il n'y a aucun mouvement, on est en statique, et ça tombe bien, ce jour-là, il bat son record, puisque le flotteur qui a été fixé ici, on mesure à la tête, et le flotteur qui a été fixé ici, c'est son record correspondant, vous voyez, on est au-delà des 15 mètres, puisque tout à l'heure on a mesuré que le milieu du bassin, la ligne rouge de 12,50 m, a été précisée juste avant. On peut le faire aussi en condition de départ, c'est-à-dire avec un signal de départ. Toute la partie préalable du départ est la même. Mais il n'y a pas de reprise de nage. Et on mesure... toujours à la tête. Voilà. Donc tout ça pour dire que dans cette problématique, eh bien, on va mesurer la coulée en conditions statiques, en conditions dynamiques, avec une poussée au mur, une poussée, etc., ou tout simplement dans la configuration d'un départ. C'est un indicateur, tout simplement, d'une qualité de départ. Après, évidemment, tout ce qui est reprise de nage, etc., on va le voir après. Alors, là, justement, on est sur Alain Bernard, donc champion olympique, correspondant. Les images sont des images de la fédération. Eh bien, là, une coulée. Cette coulée... elle est suivie, à la différence de ce qu'on vient de voir avec Julien, d'une reprise de nage. Et on voit bien que cette coulée, elle peut être mesurée, mais comme elle est en dynamique, c'est une coulée qui est suivie d'une reprise de nage, mais on voit que la première partie, ou tout simplement le mécanisme tout simplement de placement segmentaire, au moment de la poussée, est extrêmement horizontal, et le positionnement de la tête, c'est une des problématiques que j'aborde dans cette conférence, est extrêmement importante dans la logique, tout simplement, de l'équilibre et de l'équilibration. Alors maintenant, on vient de voir flottabilité, équilibre. Maintenant, on va parler des déséquilibres. Quels sont les déséquilibres qui vont affecter le nageur? Eh bien, souvent, on parle du tangage, du lacet, du roulis. On oublie que ces combinaisons de lacet, tangage et roulis sont dans deux plans dans l'espace. Sauf que, et ça c'est modélisé dans l'ouvrage de Guttel, eh bien, c'est que on a la première, dans chaque axe, on a une source, tout simplement, de modification. C'est ce qu'on appelle le pilonnement. Si on représente tout simplement un objet, eh bien, ce déplacement, c'est une source de déséquilibre qui s'appelle le pilonnement. Ce déplacement qui est évidemment favorisé, puisque c'est le déplacement horizontal favorable du déplacement, s'appelle le cavalement. Et le déplacement latéral s'appelle l'embardé. Et la quille du bateau ou la dérive d'un voilier, eh bien, sont justement là pour éviter cette embardée qui est une source de déséquilibre. Donc n'oublions jamais que les trois premières sources de déséquilibre sont le pilonnement, l'embardée et le cavalement sur les trois plans de l'espace. Par contre, évidemment, pour le nageur, on va aborder systématiquement la problématique du tangage, du lacet ou du roulis, puisque on est sur des mécanismes multiples, sur deux plans de l'espace, donc par rapport au déplacement. Le tangage, donc, c'est non seulement une forme de pilonnement d'une partie du corps et tout simplement une forme donc de réorganisation qui est dans par rapport au centre de gravité. Le lacet qui est obligatoire tout simplement pour créer des forces propulsives, on ne peut pas rester la main dans tout simplement la perpendiculaire du plan du déplacement. D'ailleurs, heureusement, même si certains ouvrages actuels préconisent le déplacement dans le sens opposé au déplacement avec la loi d'action-réaction de Newton, évidemment, c'est une très très grosse erreur, mais ça, j'aborderai ça dans la conférence sur la propulsion. Et le roulis qui doit être réalisé parce que plus l'épaule du crawler va être enfoncée pour pouvoir propulser, mieux ce sera. Et plus l'épaule crawler, à plus forte raison du dossier, va être dégagée, et meilleur ce sera pour réaliser un tout simplement retour propulsif. Donc le roulis, on a un roulis négatif et on a un roulis positif. De la même manière que le lacet, par contre, le tangage est toujours, sauf dans la brasse, si on revient juste là, le tangage peut être une forme de modification du déplacement, en particulier en brasse, dans lequel on va remonter et redescendre. Et donc, ces trois sources de déséquilibre peuvent être des déséquilibres négatifs, mais peuvent également être des déséquilibres positifs. À quoi est lié l'équilibration aquatique, c'est-à-dire dynamique? Eh bien, l'équilibration est liée à tout un tas de facteurs. J'en ai cité ici que 7, mais il y en a évidemment d'autres. Alors, si on reprend un certain nombre de points, on vient de le voir, l'équilibration est liée à l'équilibre horizontal plus ou moins statique, mais aussi à la flottaison. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de tracter un corps vers l'avant va créer, en fonction de la flottabilité, un équilibre horizontal, et donc l'équilibration, les mécanismes d'équilibration sont bien liés à la flottaison et à l'équilibre horizontal. Comme j'en parle relativement peu, je vais aborder cette problématique ici. L'équilibration est évidemment liée à la respiration. L'apnée, c'est-à-dire l'absence de respiration, est provisoirement la bonne solution pour prolonger la coulée. Ça veut dire que la consigne qui consiste à demander à quelqu'un qui fait une coulée de souffler, c'est une erreur fondamentale lorsque on est dans la mesure de la coulée. Lorsqu'on est évidemment dans la reprise de nage, là, on anticipe la respiration et la prochaine phase inspiratoire. Mais dans la coulée, il faut absolument maintenir une apnée inspiratoire pour pouvoir réaliser une coulée, à part quelques exceptions, des gens qui sont trop en surface, qui est assez rare. L'apnée, évidemment, par contre, a des incidences sur l'énergie, c'est-à-dire si vous ne respirez pas, évidemment, vous avez des conséquences sur l'énergie. Donc, l'équilibration est liée à l'apnée, mais l'apnée a des relations avec l'énergie. L'expiration aquatique nécessite de vaincre des résistances de l'eau, c'est-à-dire que pour souffler, eh bien, on ne peut pas souffler sans forcer, puisque l'eau donc maintient des résistances. Le placement respiratoire doit être intégré à l'apprentissage de la coordination, c'est-à-dire que le placement respiratoire ou la coordination respiratoire s'apprend et doit être lié au mouvement réalisé. La fréquence respiratoire doit être gérée lors des épreuves compétitives. Évidemment, là, on est dans la problématique de la propulsion et de l'énergie. L'équilibration est liée aussi à la prise d'information. C'est-à-dire que chez l'expert, eh bien, il va profiter d'une phase respiratoire pour prendre des informations sur l'endroit où il se déplace. Évidemment, il a la possibilité de prendre des informations sous-marines, mais il peut aussi prendre des informations aériennes. Et ces prises d'informations sont réalisées pendant des phases respiratoires, donc pour éviter de relever la tête pour savoir où on se déplace. Eh bien, en dos, comme on ne peut pas regarder sous l'eau, et que quand on est comme ici dans un bassin découvert, et qu'on a des nuages ou du ciel, eh bien, les informations, on va les prendre sur la ligne d'eau, on va le prendre sur les drapeaux, etc. Et donc, ce sont des informations indirectes. Et donc, ce placement donc de prise d'information a un lien avec l'équilibration. Évidemment, l'équilibration est liée aux résistances à l'avancement. Je n'aborde pas dans ce cours les problématiques des résistances à l'avancement qui seront l'objet d'un autre cours, mais ici, on peut considérer que l'équilibration est liée au freinage qui lui-même dépend du CX ou tout simplement des surfaces de mètre couple et de déplacement du volume et de la vitesse de nage. Je préfère utiliser CXVN que KSV2, mais effectivement, on peut le modéliser par le coefficient de forme ou la surface du mètre couple. Et l'équilibre doit être maîtrisé préalablement à la propulsion. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est dans des mécanismes dans lesquels la propulsion prend le pas sur l'équilibre, eh bien, on gaspille une énergie extrêmement importante. Justement, la problématique de la relation entre l'équilibration et la propulsion est représentée par cette image-là, que on réalise une propulsion de jambes en brasse et qu'on se rééquilibre avec les bras, ou qu'on réalise une propulsion extérieure ou une propulsion par les bras et qu'on se rééquilibre avec les jambes, il y a bien un lien entre l'équilibration et la propulsion. Et il y a une relation entre l'équilibration et l'énergie, dans la mesure où l'énergie doit être utilisée pour se propulser et non pas pour s'équilibrer. Or, chez le débutant, eh ben, on va avoir une énergie considérable qui va être dépensée pour s'équilibrer, alors que chez le nageur expert, eh bien, une fois qu'il est bien équilibré, il n'utilise ses segments moteurs que pour se déplacer et se propulser. L'équilibre horizontal, évidemment, dépend de la vitesse de nage, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, le freinage est fonction du carré de la vitesse ou d'une proportion proche du carré de la vitesse, c'est pas exactement ça, eh bien, on va s'apercevoir que plus on est à l'horizontale, et moins on va créer de force de freinage. Voilà, je viens de terminer la première partie, et je vais aborder dans une deuxième partie les applications de l'équilibration aquatique.